18h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. C'est la fin du journal, mais l'information continue avec Accent d'Europe. Très bonne soirée à notre antenne.
Radio G.
Le défi 24 heures Angers Téléthon. Un événement sportif et solidaire. Au profit de l'AFM Téléthon, pendant 24 heures, faisons le plus de kilomètres possible. 1 km, 10 km ou plus, peu importe. Chaque pas compte. 63 137, c'est le nombre de kilomètres parcourus en 2024. Êtes-vous prêt à battre ce record en 2025? Rendez-vous sur défi24h.fr pour vous inscrire et rejoindre le défi 24 heures Angers Téléthon.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Il y a des débuts d'émission un peu tristes comme ça, où Noodles est dans la pièce, mais beaucoup trop loin d'un micro pour pouvoir prendre la parole. Donc bah voilà, on va prendre notre mal en patience. Il pourra nous faire quelques plaisirs à nos oreilles dans quelques instants. À 18h34, il va nous proposer, alors je ne sais pas, un billet. C'est annoncé comme ça, alors pas un billet d'argent, c'est un billet d'humeur, drôle. Tu dis oui ou non de la tête ? Oui, il dit oui. Bon ben, on va rigoler tout à l'heure avec lui. Entre temps, nous aurons la Daronne Angevine. Alors finalement, tu vas reprendre un micro, Anaïs, si ça te dérange pas. Bonsoir.
Bonsoir.
On parle de quoi tout à l'heure? Un petit aperçu de ta vie familiale, peut-être?
Oui, on va parler du sommeil de nos enfants.
Ah. Oui, sommeil des enfants n'est pas sommeil des parents, c'est très différent l'un
exactement
de l'autre. Bon, bah tout à l'heure, là ça va arriver un petit peu plus vite, ce sera 18h20, puis il y a le nouvel habillage, tu vas pouvoir le découvrir en même temps en direct. Et des invités, bien sûr. Alors tout à l'heure, on aura la Minute Biodiv, on aura aussi, peut-être qu'on devait le diffuser hier déjà, Café de Chololo, mais on aura aussi des invités. Donc entre tout ça, on aura le théâtre du champ de bataille avec Florent, Angèle et Léane qui vont nous parler de la programmation et d'une sortie de résidence, paraît-il. Voilà ce que j'ai appris juste avant l'émission. Et en deuxième, ce sera en première partie d'émission parce que le planning a été chamboulé. On va parler des boîtes solidaires de Noël. Ça devient voilà l'habitude de Topette. L'an passé, on en avait parlé avec Isabelle. Elle est de retour dans Topette. Voilà, donc restez avec nous pour en découvrir un peu plus dans quelques minutes. Topette, c'est parti.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant ça, un peu d'actu, et c'est avec Kelly ce soir.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Si vous êtes fan de ventes aux enchères et notamment d'objets un peu insolites, ne manquez pas la dernière vente aux enchères de 2025 de Cholet ce jeudi 4 décembre. Dès 10h, vous pourrez retrouver plusieurs collections d'armes anciennes et des articles liés au monde de la chasse, de la pêche et du vin. Au total, 329 lots seront mis aux enchères par les commissaires priseurs Maître Courant et Maître Cardera. Les produits seront visibles sur le boulevard Joffre dès le mercredi 3 décembre de 10h à midi et de 14h à 18h. Vous pouvez également consulter et enrichir en live via le site internet interenchères.com. Je tiens à préciser que je me dédouane totalement de ce que vous allez faire avec ces armes anciennes. Moi, je suis juste là pour vous informer. Donc toujours à Cholet, un nouvel atelier de création cinématographique appelé Les Mains dans le Cambouis a ouvert. Il est organisé par l'association Un Point Commun et le Centre Social du Planty et il aura lieu tous les jeudis. Le but ? Rassembler les participants en utilisant la caméra pour casser les barrières. Les associations fournissent tout, les locaux, le matériel et surtout de la bonne humeur. L'atelier est gratuit et ouvert à tous à partir de 13 ans. Vous pouvez même choisir d'être devant ou derrière la caméra. Si vous êtes lycéen, étudiant ou juste une âme en quête d'orientation, prenez votre agenda et entourez en rouge le 6 et le 5 décembre. Le Forum de l'orientation revient au Parc des Expositions pour sa 23e édition. Il est organisé par le CALEP et Destination Angers et il s'adresse à tous les jeunes du département, du collégien à l'étudiant Bac plus 10 ainsi qu'aux familles en recherche d'informations sur les métiers et les formations. Le forum permet aux jeunes de dialoguer avec plus de 200 exposants, universités publiques et privées, écoles spécialisées, entreprises, organismes professionnels et bien plus encore. L'objectif ? Offrir une vision claire et complète des possibilités d'études, d'alternance, de reconversion ou de poursuite de parcours à tous. L'entrée est gratuite, mais elle nécessite une invitation disponible en ligne sur le site internet de l'événement. Le salon sera ouvert le vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Pour préparer votre visite, l'annuaire des exposants est disponible sur le site officiel du forum. Généralement, on dit que l'on garde le meilleur pour la fin, mais ici, c'est pas vraiment le cas, car on termine ce flash info par une nouvelle pas très positive. Les Ducs d'Angers sont privés de leur gardien Matthew, alias Matt O'Connor, pendant au moins 8 jours après une bagarre générale lors de leur match de Ligue Magnus contre les Brûleurs de Loup de Grenoble. Le dimanche 30 novembre, à la 26e minute de jeu, le gardien de l'équipe angevine a été fortement blessé par le défenseur adverse, Pierre Crinon, qui lui a retiré son casque avant de lui mettre un coup de poing en plein visage. Les coups de poing ont plu des deux côtés et finalement, O'Connor a été expulsé et a quitté la glace avec une arcade ouverte. Privés de leur gardien titulaire, les Ducs ont malheureusement perdu leur match contre Grenoble 4-6.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Kelly. Alors tu restes avec nous, bien sûr, on va juste changer de place en attendant. Avant de recevoir notre première invitée de la soirée, on vous rappelle ces 3-4 dates importante, le défi 24h Angers Téléthon qui aura lieu les 5 et 6 décembre de 16h à 16h pendant 24h donc pour marcher ou courir autour de l'étang Saint-Nicolas au profit de l'AFM Téléthon. Objectif, battre les 55 000 km parcourus et donc récolter plus de dons encore, pourquoi pas. Il y avait eu 53 874 euros en 2024. Pour vous inscrire et avoir plus d'infos, c'est sur défi24h.fr. À Montreuil-Junier, sinon le 14 décembre dimanche de 10h à 18h sur la place Robert Schumann à Montreuil-Junier. Donc MJ Entreprendre propose de soutenir les artisans, les commerçants de la ville avec 25 stands qui seront sur la place. Le Slam Poesy Club, sinon c'est au Welsh, c'est à 20h, c'est le mercredi 10 décembre. Que vous soyez poète ou alors que vous voulez assister à un petit peu de poésie, et ben rendez-vous là-bas. Alors ça commence un petit peu avant pour s'inscrire, c'est 19h me semble-t-il, c'est proposé par la Rature Poésie. Sinon, Sésame Angers propose à la salle Athlétis au Pont de Cé le 14 décembre et le 13 décembre aussi, Jola Circus, un spectacle qui va émerveiller petits et grands. On vous offre deux places, alors dépêchez-vous de nous envoyer par message privé sur nos réseaux sociaux ou à contact@radio-g.fr votre nom, prénom et numéro de téléphone. Et maintenant, on peut enfin accueillir nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et ce soir avec Sidonie, on va parler de Noël, c'est à propos puisque nous sommes le 2 décembre et on va même parler d'un Noël solidaire, Sidonie.
Tout à fait, on est début décembre et c'est le moment idéal de plonger dans la magie de Noël, mais aussi dans la solidarité avec toi Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sidonie, bonjour Pierre-Benoît, merci de m'accueillir.
Tu étais venue dans la même période l'année dernière pour nous parler aussi des fameuses boîtes de Noël solidaire, ce qui veut dire que ça marche très bien.
Ça marche plutôt pas mal, ouais, mais on aimerait que ça marche encore mieux, donc on compte sur vous.
Nous en parlerons tout de suite, mais d'abord parlons de l'association qui organise cette collecte de boîtes en Maine-et-Loire dont tu fais partie. L'association s'appelle Les Mois de l'Année et j'aimerais savoir qu'est-ce que cette association et quel est son objectif tout au long de l'année.
Alors cette association existe depuis 2022, mais la collecte avait été lancée dès 2020. L'idée, effectivement, tout au long de l'année, c'est d'organiser, de trouver des points de collecte, de trouver des sponsors, des bénévoles. Et à partir de septembre, octobre, on va dire que les choses commencent à s'accélérer, encore plus lorsqu'on arrive fin novembre, où effectivement, on va commencer la communication à fond, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à travers la radio, la presse écrite et autres, pour essayer de mobiliser un maximum de personnes. Alors, c'est ça que j'adore dans cette action, c'est que l'année dernière, on a collecté à peu près 6800 boîtes. Donc ça veut dire beaucoup de particuliers sur le département, mais aussi d'entreprises, d'associations qui se sont mobilisées pour faire plaisir à des inconnus qu'ils savent être dans le besoin et leur apporter un petit rayon de soleil.
Donc beaucoup de boulot. Et du coup, au sein de cette association même, oui, vous êtes combien à peu près?
Alors l'équipe organisatrice est composée de 6 personnes. Donc on a Jonathan, Cyril, notre président. On a Amélie, on a Valérie. Et Françoise, bien évidemment, trésorière, pardon. Et puis, on a beaucoup de bénévoles à côté. On a plus d'une cinquantaine de bénévoles sur le département.
Donc, grâce à vous tous qui, du coup, formez cette association, année après année, des personnes en situation de précarité ont du réconfort. Et pour cette saison de Noël, vous faites la collecte des boîtes de Noël solidaires en Maine-et-Loire. Rappelons vite fait le concept. Ce sont des petites boîtes préparées avant Noël en destination de personnes en situation de précarité pour leur apporter un souffle d'humanité et de bonheur. Peux-tu nous préciser ce qu'on doit mettre dans ces petites boîtes de Noël du coup ?
Alors ces boîtes déjà sont format type boîte à chaussures, c'est la récup, hein, qu'on va venir décorer, et dans laquelle effectivement on va venir glisser 5 petits cadeaux, donc quelque chose de chaud, un bonnet, une écharpe, une paire de gants. Ça peut être de la seconde main, il n'y a aucun souci, tant que c'est en bon état. Voilà. Un divertissement, alors comme on s'adresse à un public qui va aussi bien des bébés aux adultes, on va adapter en fonction de la catégorie d'âge qu'on cible. Hein. Ça peut aller du petit doudou au jeu, au livre, à la BD, à la petite enceinte. Voilà, enfin, plein de choses qui peuvent nous divertir. Une gourmandise, donc quelque chose de bon qui fasse festif, des chocolats, des bonbons, une petite terrine. Un produit qui sent bon, un produit cosmétique, quelque chose qu'on a envie de recevoir. Donc on est en cadeau de Noël, donc il faut quelque chose qui fasse vraiment envie, pas forcément du dentifrice ou la brosse à dents, mais plutôt un savon bio, enfin quelque chose vraiment de sympa, des cires pour les cheveux pour les ados, des crèmes pour le rasage pour les hommes, voilà. Et puis un petit mot doux. Alors là, le petit mot doux, bah c'est la touche personnelle, c'est vraiment ce qui fait que on montre qu'on a vraiment pensé à la personne à qui la boîte est destinée. Ça peut être un petit dessin, un petit poème aussi, hein, vu que ça peut être fait par des enfants également. Et c'est souvent ce qui touche le plus les destinataires.
Du coup, c'est une boîte avec plein d'attention et
c'est ça.
C'est hyper mignon de faire ça. Mais du coup, une fois que la boîte est prête, qu'en fait-on? Où on les apporte?
Alors, on la dépose dans un de nos points de collecte. On a plus d'une centaine de points de collecte. Je crois même qu'on n'est pas loin des 150 sur le département. La carte des points de collecte est disponible sur notre site internet, boîte de Noël 49. Et puis, vous la trouvez également sur nos réseaux sociaux. On l'a pas mal diffusée depuis quelques jours.
Et une fois du coup que ces boîtes sont mises dans des points de collecte, où vont-elles et à qui vont-elles?
Alors on a 3 gros centres de tri, on a même un 4e cette année avec Segré. Donc les bénévoles vont aller chercher les boîtes dans les points de collecte, les ramener à un des locaux de tri, et puis elles vont être toutes ouvertes, toutes vérifiées, contrôlées. On va venir retirer ce qui éventuellement ne peut pas convenir. Si par exemple on a des gourmandises qui sont faites maison, c'est pas possible. On va venir les compléter lorsqu'il y a besoin, les identifier, dire bah voilà, cette boîte correspond à un ado par exemple, plutôt 15-16 ans. On va venir préciser s'il y a une notion de taille, un pull en S, en XL. On va venir aussi préciser s'il y a un livre dedans, parce que toutes les assos n'ont pas forcément des publics francophones ou lecteurs. Et puis ensuite, on va préparer les commandes des associations. On travaille avec à peu près une 50 d'associations sur le département à qui on remet les boîtes et qui vont à leur tour les distribuer à leurs bénéficiaires.
Du coup, c'est un cycle, mais du coup, à la fin de ce cycle, pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, comme un don ou autre chose, comment on s'y prend et quelles sont les autres possibilités d'aide?
Alors, il est possible de faire des dons via notre site. Hein. Ce sont des dons qui peuvent être défiscalisés. Vous pouvez aussi faire des dons par les commerces. Par exemple, on va beaucoup les solliciter en disant « Est-ce que vous auriez pas des gourmandises ?» Là, par exemple, on va arriver... Les calendriers de l'Avent vont bientôt plus être achetés par les particuliers, donc on va essayer de les récupérer pour les reconditionner dans des petits sachets où on mettra toutes les infos pour les mettre dans les boîtes. On a parfois du tracting, on va essayer de récolter des dons en nature, là aussi, que ce soit des gourmandises, des vêtements chauds, des produits cosmétiques, des divertissements, voilà.
Et imaginons si on prend un peu plus général, au-delà de la logistique, on sent que ce projet porte une dimension humaine très forte. Malgré que nous vivons dans une société individualiste, est-ce que vous voyez un renforcement de la solidarité au mois de Noël, du coup, et selon vous, pourquoi?
Bah parce que Noël, forcément, ça évoque pour tout le monde un peu la magie, les moments passés en famille, enfin des moments de partage. Et le fait de savoir que certaines personnes vont être isolées ou ne vont pas pouvoir avoir un peu ce moment de chaleur, bah ça donne envie de se mobiliser pour ces gens-là, de leur dire au moins à cette période de l'année où on a envie que tout le monde soit heureux, on apporte notre petite pierre à l'édifice en faisant une petite boîte.
Et cette collecte 2025, justement, elle est de quand à quand?
Alors, elle a débuté le 29 novembre et elle s'arrêtera le 19 décembre.
Donc, on peut encore
Bien contribuer. Évidemment, on est à fond dedans. Là, ça commence. Les premières boîtes sont arrivées, mais on en attend encore de très, très nombreuses. Et si j'ai un petit message à faire passer, c'est apportez-les-nous le plus vite possible, parce que dans l'idéal, les associations aiment bien les distribuer avant Noël. Et pour ça, il faut qu'on ait le temps de les collecter, de les vérifier, de préparer leurs commandes.
Et pour finir, est-ce qu'il y a une dernière chose à dire ou à rappeler sur cette collecte des boîtes de Noël solidaires en Maine-et-Loire ?
Alors, une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, c'est que tous les ans, on arrive à faire le plein de boîtes enfants et bébés, mais qu'on a toujours un manque en boîtes ados et adultes, surtout adultes et surtout les hommes. Donc, si vous hésitez à savoir pour qui vous voulez faire votre boîte, faites-nous des boîtes pour les adultes, des boîtes pour les hommes en particulier, et puis les ados garçons. C'est plus facile de faire une boîte pour une ado fille que pour un ado garçon, donc voilà.
Merci beaucoup Isabelle, merci aussi Sidonie. On redonnera les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. On renverra aussi dans la description du podcast de cette émission le lien pour savoir comment et où trouver son point de collecte. On va continuer cette émission, on va passer en théâtre dans quelques instants avec l'équipe du TCB, le Théâtre du Champ de Bataille. Mais avant tout ça, puisque c'est Noël, qui dit Noël dit famille, qui dit famille dit la daronne angevine sur Topette.
Des enfants, des parents, des cris, des pleurs, du brouhaha, des sorties, des bons plans et des bons moments en famille avec la daronne angevine.
Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, parlons du sommeil de nos enfants. Ou plutôt du non-sommeil de nos enfants. Parce que soyons honnêtes, le manque de sommeil, c'est pas juste une galère, c'est de la torture. Non, vraiment, la privation de sommeil est reconnue comme méthode d'interrogatoire. Et nous, les parents, on vit ça, tous les jours, sans avoir commis le moindre crime. Bon, déjà, au début, l'enfant naît. On sort tout juste du combo 9 mois de grossesse plus accouchement, l'équivalent d'un petit triathlon sans médaille à la fin. On se dit, bon, une petite sieste pour récupérer ? Non. Si en plus la mère allaite, alors là, l'enfant est littéralement scotché au nichon, c'est comme si on était une bande de recharge. J'exagère à peine, vous avez l'image. Ensuite, les premiers mois, l'enfant se réveille la nuit, on reste zen. C'est normal, il a faim, il a besoin d'être rassuré. Oui. Mais alors ceux qui disent, le mien a fait ses nuits dès la maternité. Mentez-nous. Je vous en supplie. Parce que si vous me dites ça sincèrement, je peux devenir violente. Juste quand on pense que ça se calme, paf, les pics de croissance. 3, 6, 9. Si vous ne connaissez pas, je vous raconte, c'est génial. 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, la même avec les mois, l'enfant a un pic de croissance. Et bam, ça dérègle le sommeil. Encore et toujours. Ensuite, les maladies. Il tousse, il se réveille. Un rhume, il se réveille. Un cacamou, il se réveille. Il respire trop fort, il se réveille. Il respire pas assez fort, ben il se réveille aussi. Et là, tu peux pas lui dire... Bernard, rendors-toi. Bon, déjà, parce que ça m'étonnerait que ton enfant s'appelle Bernard, mais surtout parce que ça ne marche pas. Arrive ensuite, les dents. Oui, oui, les dents. Ça pousse, ça gratte, ça fait mal, ça fait une otite, ça fait de la fièvre, ça refait cacamou. Bref, les dents, c'est l'arnaque du siècle. T'as survécu à tout ça ? Tu penses que t'as gagné ? Non. Ensuite arrivent les régressions de sommeil. Parce qu'en fait, la journée, il découvre de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages, il devient plus autonome. Et bah, du coup, ça régresse la nuit. Ça régresse, ça régresse, ça régresse. Alors chez moi, comment ça se passe en ce moment ? Le dernier enfant va avoir 3 ans. Donc il dort pas la nuit. Et pire, c'est que je trouve qu'il ne s'endort pas. Enfin, je trouve ça pire, il ne s'endort pas tout seul le soir. Donc je reste entre 1h et 1h30 tous les soirs allongé dans son lit à attendre qu'il s'endort. Ma soirée, clairement, elle est nulle. Le lendemain, je suis fatiguée. Les nuits sont catastrophiques. Bref, bienvenue en enfer. Alors oui, on a tout essayé, clairement. Changer le lit, changer la chambre. Changer l'enfant, non, on n'a pas le droit. Mais bon bref, la tête au nord, la tête au sud, les huiles essentielles, les veilleuses, les doudous, le t-shirt de maman avec l'odeur, l'acupuncture, la micro-kiné, la kiné, l'ostéo, la kinésio, rien ne marche. Je vous jure, j'ai essayé tout ça. Au CHU, ils ont même un pôle consultation sommeil. Un échec. Donc voilà, clairement, j'ai lâché l'affaire et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. J'ai accepté que je ne dormirai plus. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Peut-être plus tard et encore, je suis même pas sûre. Donc je suis soumise à mon manque de sommeil. Franchement, on s'habitue. Mais attention, il faut le dire, le manque de sommeil, c'est dangereux. C'est pas juste je suis fatiguée. Non, c'est dangereux pour la santé, pour le moral, pour tout le monde. Donc oui, il faut être un peu plus doux avec soi-même, essayer de trouver du relais, se faire aider quand c'est possible et arrêter de juger les darons. Franchement, gardez vos conseils non sollicités, on fait comme on peut. Quand moi je dis oui, bah ça fait 4 ans que j'ai pas dormi, et qu'on me dit, t'as essayé de le laisser pleurer ? Alors non. On ne laisse pas pleurer un enfant. On le sait, maintenant, ça ne sert à rien, c'est de la torture émotionnelle. T'aimerais, toi, que je te laisse pleurer dans le noir toute une nuit alors que je suis juste à côté et que je t'entends pleurer ? Non ? Bon, bah voilà, je fais pas pareil avec mon fils. Ce dont nous avons besoin, nous, les darons épuisés, c'est de compassion, de relais, de quelqu'un qui nous dépose un plat de lasagne. Quelqu'un qui va me dire, vas-y, pleure si tu veux, pas de jugement. Sur ce, bonne nuit. Enfin, bonne chance.
Ah. Tiens, oui, ça donne envie d'avoir des enfants, tout ça. Il y a un programme qui dit, il faut dormir quand l'enfant dort, faut passer l'aspirateur l'enfant passe l'aspirateur.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça le truc. Bon, en tout cas, on se retrouve quand même dans deux semaines en pleine forme, si possible.
Bah, fatigué, mais on a l'habitude.
Oui, voilà, 3 heures de sommeil, c'est suffisant, non?
Bah, si c'est consécutif, c'est déjà une petite victoire.
De toute façon, je crois que le sommeil profond cumulé, c'est que quelques minutes. Donc,
oui, c'est vrai.
Bon, pourquoi dormir?
De quoi nous plaignons?
Pourquoi passer 9 heures de sommeil la nuit? Non, ça sert à pas grand chose. Anaïs, tu restes avec nous si tu le veux. On passe à notre deuxième sujet de la soirée.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Et bonsoir, Florent.
Bonsoir.
Des enfants?
Ouais. Ouais. Ils dorment très, très bien.
Depuis...
Elles sont super. Elles ont 7 ans. Non, j'ai. Ouais, enfin bon, bref. Je compatis comme toutes les darons et daronnes angevines.
Mais voilà, on sait ce que c'est. Bonsoir, Léane.
Bonsoir.
Et bonsoir, Angèle.
Bonsoir.
T'as cru que j'avais oublié ton prénom?
Oui, un peu.
Mais non. Angèle, je m'en suis souvenu. Vous êtes toutes les deux en service civique sur la saison 25-26 au TCB, au Théâtre du Champ de Bataille. Vous accompagnez donc Florent. Alors, on a la programmation. J'ai la petite programmation sous les yeux. Je sais plus de quoi on avait parlé la dernière fois. Je crois qu'on avait parlé vaguement. Enfin, on avait parlé du spectacle intro de Dylan Ross-Ronsin, de tête. Il y avait aussi Ciné-Famille, me semble-t-il. Il y avait plein de choses. Alors, il y a encore plein de choses. D'ici la fin de l'année, donc l'année civile, qu'est-ce qui va accompagner la programmation du TCB? Est-ce qu'on sera qu'en théâtre? Est-ce qu'il y aura de la danse? Est-ce qu'il y aura le Père Noël? Est-ce qu'il y aura pour les petits-enfants? Qu'est-ce qu'il y aura, Florent, Angèle et Léane?
Un peu de tout ça. Cette semaine, on a un spectacle pour les tout-petits, enfin à partir de 3 ans, qui s'appelle Mondo Incognito. Et c'est un spectacle sans parole, de musique improvisée et de il y a un dessinateur qui fait des dessins avec des vieux rétroprojecteurs qui fait des choses avec de la peinture tout ça et c'est projeté sur un écran. Donc en fait, c'est une œuvre qui se crée en direct avec de la musique improvisée, plutôt jazz, musique improvisée, des machines, des choses comme ça, des choses très douces et très enveloppantes. Donc c'est vraiment un spectacle sensoriel, il y a pas de texte, il y a pas d'histoire, on s'invente ce qu'on a envie et c'est à partir de 3 ans. Et ça commence demain jusqu'à samedi.
Et ça s'appelle, redis le nom.
Mondo Incognito.
Mondo Incognito. Alors évidemment, il faut réserver, je suppose.
Oui, alors celui-là, enfin les spectacles pour les tout petits, ça c'est très prisé, mais là il reste encore des places.
Tout petit, à partir de 3 ans.
À partir de 3 ans, 2 ans et demi, voilà.
Jusqu'à, on a une limite d'âge
jusqu'à
ou pas?
Jusqu'à ce qu'on arrête de rêver.
Donc, ah oui, donc ça peut être jusqu'à très très loin pour certains d'entre nous. La suite de la programmation, du coup, j'essaie de reprendre le fil. Est-ce qu'il apparaît déjà? Oui, Mondo Incognito, donc ça, oui, à partir de 3 ans, 30 minutes, 3 décembre et 6 décembre, je vois Angelo tirant de Padoue. On parle de ça?
On parle de ça. C'est une création de Charline Poron, donc qui travaillait avant dans l'équipe de Thomas Joly pendant très longtemps, qu'ils arrivent sur Angers.
Compagnie La Passegliata.
La Passegliata, ouais. Et Charline, elle a donc créé déjà des spectacles quand elle était OK. Elle a créé Échappée, notamment, que certains ont pu voir. Angelo Tirant de Padoue, c'est un polar théâtral qui se passe... je n'ai plus l'époque exacte, là, sous les yeux, 17e, 18e
16e siècle.
Voilà, merci. Donc on a des intrigues, ça se passe à Padoue, des intrigues de pouvoir, etc., des choses un peu sombres, tout ça, mais ça vraiment, il y a un côté, polar, dans le sens où on a vraiment envie de savoir les intrigues, comment ça va se passer, qui va réussir quoi, il y a un côté série, presque, un peu. Et puis l'originalité un peu de ce texte, c'est que de Victor Hugo, c'est que les femmes ont un rôle prépondérant, c'est vraiment elles qui tirent les épingles du jeu, qui réussissent à renverser l'intrigue dans un monde à l'époque déjà très très patriarcal, mais elles arrivent à renverser les situations par leur intelligence, pas par leur charme. Enfin voilà, il y a une dimension. En tout cas, Charline a appuyé sur la dimension féministe du texte et ça donne un spectacle qui est assez captivant où il y a 6 artistes au plateau. Donc c'est quand même de plus en plus rare. Donc profitons-en. Il y a Charline qui met en scène et puis il y a d'autres acteurs que vous avez peut-être déjà vus au Quai, comme Damien Avis qui était aussi dans l'équipe de Thomas Joly.
Voilà, la compagnie La Passeggiata aussi, qui fait tout un travail autour de Victor Hugo, qui avait fait des choses avec Forma, la résidence artistique de Beaucouzet, avec Anne Bourreau et Timothée. Et qu'on, voilà, on avait fait un podcast de cette sortie de résidence qu'on vous invite à découvrir, redécouvrir sur le site internet de la radio. Je fais de la pub aussi pour la radio en même temps, si ça ne te dérange pas, Florent, voilà. Le TCB. Alors, je vois qu'ensuite, on passe tout de suite en janvier. Peut-être qu'en janvier, est-ce qu'on en parle maintenant, par exemple, de Babil? Ou alors, on peut en parler maintenant, je crois, hein. On se reverra peut-être pas avant, ou alors ce sera juste avant.
Babil, c'est vraiment après les vacances de Noël, donc on peut redémarrer l'année avec un spectacle. Babil, c'est une compagnie angevine qui s'appelle La Turbulente, qui a un festival qui est vraiment super en juillet, à Mauges-sur-Loire, je crois, enfin dans les Mauges, qui s'appelle le festival La Turbulente. Et Babil, c'est deux personnages qui viennent nous raconter une histoire de la tour de Babel. Sauf qu'il y a un des deux qui parle très bien, qui est charmeur, qui maîtrise le langage, maîtrise les mots, et l'autre qui est hésitant, qui a un peu peur, qui sait pas trop, qui cherche ses mots. Et donc forcément, il y en a un qui va être plus mis en valeur, l'autre qui va être en retrait, mais qui va quand même essayer de prendre la parole, qui va être maladroit, qui va même arriver jusqu'à être violent, parce qu'il n'arrive pas à prendre la parole, à être mis devant. Donc ça parle de ça. Est-ce que c'est ceux qui parlent le mieux, qui ont l'éloquence, qui ont le pouvoir, qui sont les plus à même à s'exprimer, ou est-ce que tout le monde a de sa place à un moment donné? Ils vont réussir à la fin à collaborer et à construire une magnifique tour de Babel sur scène. Donc c'est à partir de 6 ans, mais c'est vraiment un spectacle familial, c'est vraiment un fait pour être vu par tout le monde.
Voilà, à partir de 6 ans, jusqu'à encore, comme voilà, tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on arrête d'aimer l'art, le théâtre et la culture. Je vois que le temps avance à toute allure. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et on vient avec vous dans quelques instants. Mais juste avant ça, Julien Noodle, si tu veux bien t'emparer d'un quelqu'un, te prêter un... Bah voilà, il a 2 micros, il a pas de casque encore, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. On va faire un petit billet d'humeur avec toi. Alors je ne sais pas, tu m'as proposé un titre musical, est-ce que je l'envoie en introduction?
Tu peux l'envoyer, je vais démarrer ma chronique sur la musique. Il est 22h51 en ce lundi 1er décembre 2025. Noël approche, le premier chocolat de l'Avent a été dévoré et Maria Carey pointe le bout de son nez, comme chaque année. Tout semble donc paisible dans la petite bourgade de Topette City. Rien ne laisse présager la mésaventure que s'apprête à vivre notre protagoniste. Un certain personnage que l'on nommera J.H., pour préserver son anonymat. Et pourtant, alors qu'il s'apprête à regarder la nouvelle saison d'Étranges Choses sur la plateforme au grand N rouge, J.H. se rappelle d'une proposition allouée à un certain P.B. Quelques heures auparavant, il lui a promis un papier, un billet d'humeur de 3 minutes pour une soi-disant émission radio. J.H., serein, s'attelle à l'écriture de ce fameux billet, persuadé de le clôturer en un temps de mouvement. Car oui, J.H. se croit rapide et capable de remodeler les expressions à sa guise. Mais alors qu'il commence à tapoter quelques mots sur sa machine à écrire moderne, il est pris d'effroi, comme tétanisé. Devant lui se dresse son plus grand ennemi, celui qu'il redoute par-dessus tout, un autre P.B. La page blanche, elle est là. Si grande, si vaste, lui qui pensait enchaîner un ou peut-être deux épisodes d'Étranges Choses, on salue d'ailleurs nos amis québécois qui nous écoutent, il va sans doute devoir renoncer à ce divertissement nocturne et attendre avant de pouvoir savourer les nouvelles aventures d'Eleven. Eleven, c'est l'heure qui s'affiche sur l'écran de sa machine à écrire moderne. Et toujours rien. Juste 3 mots écrits en gras, billet d'humeur. D'humeur, il ne l'est certainement pas, et il aimerait bien offrir un billet à quelqu'un pour faire le sale boulot à sa place. Alors, il pense à un subterfuge, un fond sonore à base de saxophone, pour cacher le manque évident de fond et faire avaler la pilule à P.B. Une pilule bleue ou rouge, se demande-t-il, lui qui se sent éternellement obligé de placer des rêves ciné à chaque fois qu'il vient à la radio. Sur France 3, ce soir-là d'ailleurs, est diffusé Mon nom est personne, western spaghetti, à la sauce carbo. Moi, je veux devenir quelqu'un, pense J.H. Il a de grands rêves, J.H. Il se dit aussi que la carbo, c'est avec un œuf et du guanciale, mais surtout pas de crème. Mais ça, c'est les pensées intérieures de J.H. et ça n'a rien à voir avec notre sujet. Bref, Alors que le subterfuge commence à marcher et que le plateau entier commence tout doucement à s'endormir sous l'impulsion de la musique de Bernard Herrmann et de ma voix grave et lancinante, J.H., de son côté, prend son courage à deux mains et tente par tous les moyens d'effacer cette P.B., cette page blanche. Les mots commencent à se former, les phrases à défiler, l'écran à se remplir et les timelines à se superposer. Il ne connaît pas encore la qualité de son ouvrage, les yeux baissés sur les lettres qui tambourinent sous le martèlement de ses doigts. Mais peu importe, quand il relèvera la tête, la page blanche aura disparu, et à ce moment-là, il se dira peut-être, dans un élan d'optimisme, que si pour l'instant il n'est encore personne, il deviendra peut-être un jour quelqu'un.
Waouh, j'aurais presque envie de... Voilà, lancer des applaudissements, incroyable, merci beaucoup.
Je tiens à préciser que ce sont des vrais applaudissements.
Ce sont des vrais applaudissements qui ont été enregistrés, mais...
Enregistrés, mais des vrais.
Des vrais,
voilà.
Voilà. Mais c'est oui, c'est pas de l'IA, voilà. C'est important de le préciser, J.H. ou...
Merci, P.B.
Je sais pas si toi, J.H. En tout cas, je trouve le podcast de la vie de J.H. nettement plus intéressant et mieux construit que le podcast de Julien Houdet.
Ah oui, je suis d'accord avec toi.
Mais ça, c'est un autre débat, on verra, on les confrontera peut-être avec la présence de Bertrand.
Bertrand, s'il revient, oui. Petite promo, Bertrand, reportage qui sort dans quelques jours. Voilà, il était venu.
Mais où ça?
Sur Instagram, sur les réseaux. Il faut aller suivre.
De J.H.
Sur les réseaux de J.H. Bertrand, voilà, il aura un petit reportage d'une minute trente en réel Insta qui arrive incessamment sous peu.
Bon, tu restes.
Et
avec...
il te fait des bisous d'ailleurs, Bertrand.
Eh ben, on l'embrasse aussi. Tu restes avec nous, toi.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Puisque nous revenons avec notre théâtre du champ de bataille, avec Angèle, Léane et Florent qui sont là donc pour en parler. Oui, J.H, il faut rendre le micro, si vous le voulez bien, à Léane. Léane et Angèle qu'on n'a pas encore entendu. Alors Florent, je ne sais pas sur quelle date, comment tu souhaitais leur donner la parole. Peut-être que je peux leur demander comment se passe le service civique, puisque la dernière fois, vous veniez de commencer, je crois à peu près. Angèle, Léane, ça se passe bien? Alors j'imagine que oui, parce que vous n'allez pas dire que non.
Non, oui, ça se passe très très bien, oui.
La soirée, alors c'était l'après-midi ciné, famille, avec les projections, ça s'est très bien passé, on annonçait des surprises.
Alors les surprises, c'était essentiellement le chocolat chaud, qui était offert par le Théâtre du Champ de Bataille. Il y avait aussi des animations, origami, et puis... des maracas qui ont eu un certain succès.
Les maracas, c'est toi qui les faisais, les maracas?
Oui, c'était une petite animation, voilà, fabriquer une petite maracas avec des petits grains de riz. Donc les parents étaient très contents, ils m'ont regardé. On va retrouver des grains de riz partout, mais...
Ah oui, les gobelets qu'on met avec du scotch et des grains de riz.
Voilà.
D'accord, moi ça m'a traumatisé dans mon enfance, mais c'est l'un de traumatiser les parents aussi. Et qu'est-ce que vous êtes impliqué sur des dates là prochainement ou pas dans la programmation? Est-ce qu'on a d'autres après-midi de ce genre? Est-ce qu'on a l'avenue du Père Noël par exemple? Je ne sais pas.
En janvier, il y aura un autre ciné-famille, de tête c'est le 25 janvier, qui sera sur... donc il y aura en long métrage Qui la petite sorcière l'après-midi. Et le matin, c'est...
Youpi, c'est mercredi.
C'est ça, pour les plus petits. Et pareil, ce sera sur le même format, une journée dédiée à la famille, avec des animations, des surprises également.
Du grain de riz encore, des grains de riz?
Peut-être.
Non, bah après les maracas, je sais pas, peut-être on pourra faire d'autres instruments, non?
Non, on avait peut-être l'idée de faire un concours, une course de ballet, en rapport avec Kiki la petite sorcière. Voilà.
À courir avec un ballet entre les jambes? Bon bah faut être assez doué. D'ailleurs ça me fait penser, je sais pas, je vous renvoie vers un podcast d'un de nos invités qu'on avait eu. Je fais vraiment beaucoup de promos pour l'émission décidément, mais le cheval à deux pattes, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est le même concept, donc c'est pas si idiot que ça finalement, ça peut éveiller des vocations. Alors Florent, t'es venu avec quelque chose qui n'est pas dans la programmation, qui est sur un papier que tu as devant tes yeux, c'est une sortie de résidence, je ne sais quoi,
ouais, avec des tirets entre les mots. C'est une résidence d'une compagnie de danse, donc c'est assez rare pour nous d'accueillir des danseurs, qui s'appelle la compagnie Laurent Seble et la compagnie Les Individués. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur la performance, des choses assez étranges, étonnantes, qui travaille plutôt sur Nantes. Et là, il est avec deux musiciens performeurs, improvisateurs, et ils vont faire un spectacle où ils mélangent la danse, la musique, et ils cherchent les espaces communs, ils travaillent sur le temps, l'espace, l'improvisation. Laurent, il m'avait décrit son travail comme étant chelou. Voilà. Donc c'est
le travail, pas Laurent.
Alors, bah, Laurent, non, son travail.
Son travail,
son
oui.
travail, pardon. Et ils sont en résidence dans le cadre d'une coopération qui s'appelle Itinéraire d'artistes, où il y a plusieurs lieux dans tout le Grand Ouest, à Rouen, à Rennes, à Brest, à Nantes, à Angers et au Mans, qui permettent à des artistes d'aller en résidence dans plusieurs lieux, de rencontrer des publics, etc. Et le 19 décembre à 11h, ils proposent une sortie de résidence, donc ils vont présenter là où ils en sont. Ils sont assez avancés dans ce travail qui mêle musique et danse. Et c'est ouvert au tout public. Il y a une réservation qui est conseillée sur notre site via Hello Asso, avec une participation qui peut être zéro. On peut venir, il n'y a aucun souci. On peut aussi donner si on a envie pour contribuer à l'accueil de la compagnie. Mais c'est une proposition qui est à tarif libre, qui est ouverte, qui est différente. C'est le 19 décembre, c'est avant les vacances. Voilà, pour découvrir ce travail qui est assez étonnant, assez drôle, assez fantaisiste, assez barré aussi par moment.
J'ai essayé d'avoir l'info, mais du coup, pas de Père Noël de prévu au TCB.
Non. Mais il y a tout ce qu'il faut en ville. Il y a un super Père Noël à Angers.
Oui, bah oui, il peut pas être partout en même temps. S'il est au marché à Angers, par exemple, il peut pas être en même temps.
Non, il peut pas.
Voilà, il peut pas. Il a déjà beaucoup de travail en ce moment, je pense. Donc voilà, on va pas le sursolliciter. Bon, en tout cas, toutes les infos pratiques concernant le TCB, que ce soit les réseaux sociaux, alors peut-être animés par vous, Léane et Angèle.
Oui, un peu, oui.
Ouais, des petits réels en cours.
Ouais, on avait parlé la dernière fois, il me semble, d'un petit podcast qu'on voulait créer sur les mensonges pour une médiation pour un spectacle qui est passé la semaine dernière à la limite de la crédibilité. Et le podcast est en cours de finition et il sera bientôt publié sur les réseaux.
Des pépites un petit peu, des trucs drôles, des choses... rien de très choquant, personne n'a annoncé qu'il était l'auteur d'un quoi que ce soit, non ?
Non.
Rien de choquant, par contre, des mensonges de différents horizons qui sont totalement différents les uns des autres et qui, parfois, tu te dis, ah bah tiens, il y a des mensonges, différents degrés de mensonges et différentes visions du mensonge aussi... C'est très intéressant à écouter.
D'ailleurs, à propos de Noël, j'aurais peut-être un mensonge à révéler, mais c'est voilà, je sais pas si c'est le.
Alors
si c'est
ça l'endroit. Fait partie du podcast, je crois, non ?
Ouais, ouais. C'est vrai ? C'est,
bah, non. C'est dans le spectacle, en tout cas, il y a eu ça, ouais, parce que des enfants étaient interviewés et il y a eu un débat entre plusieurs enfants avec certains qui pensaient que c'était un mensonge et d'autres non.
Alors, on n'a pas dit quoi, donc les enfants qui écoutent actuellement, voilà, ça reste flou, même pour Kelly, même pour Julien, vous ne savez pas. Il a l'air choqué. Bon, en tout cas, on va découvrir tout ça très prochainement. Ce sera à découvrir sur les réseaux sociaux, hein. C'est ça l'idée, hein, si j'ai bien compris. Et puis oui, il y avait cette cabine à mensonges, voilà. Et on peut continuer à alimenter ou pas, si on a vraiment des choses à confesser ?
Non, elle est clôturée là, mais si jamais vous avez envie de vous confesser, on peut continuer à alimenter le podcast.
L'insta du théâtre du champ de bataille qui va devenir un vrai confessionnal finalement. En tout cas, il y a le site internet aussi, Florent, Léane, Angèle. tcb.com, champ de bataille.net. .net, sans S à champ. Voilà, exactement. Sachez-le. Juste pendant que Anaïs est en face de moi encore, je voulais te faire réagir tout à l'heure par rapport aux boîtes de Noël. Boîtes de Noël solidaires, est-ce que tu connaissais, toi ?
Oui, moi je connais, on le fait avec mes enfants. On a commencé il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans.
Sidonie est ton enfant ?
Non, pas du tout.
Regardez, vous
mais Sidonie a fait l'interview tout à l'heure. Donc
tu fais t'aimer Sidonie quand même.
Non. Oui. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a déjà fait.
Donc cette année
enfants,
encore ouais. Aussi, ouais.
Ouais, cette année aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien faire et c'est un moment sympa qu'on partage et c'est une activité qu'on fait ensemble. Les enfants sont occupés, c'est génial, le temps passe, c'est super.
Voilà, faire plaisir aussi aux autres, même si le Père Noël fait déjà plaisir aux autres.
Non, mais c'est ça, puis ça permet de sensibiliser les enfants au fait qu'il y a des gens qui sont isolés et qui ont besoin d'attention particulière.
Et Angèle, Léane ou Florent, d'un tout petit mot, même Kelly, sur ce dont on a parlé tout à l'heure avec Isabelle, les boîtes de Noël solidaires, Florent ?
Bah, je connaissais pas du tout. Je vais voir si je fais ça avec mes enfants, parce que effectivement, comme activité, c'est bien. Et puis c'est aussi une période où on essaye de faire des dons de vieux jouets, tout ça. Enfin, voilà, pensez aussi aux autres.
Alors, de vous entendre, on a l'impression que c'est que les parents qui peuvent y participer. Mais non, Kelly, tu connaissais pas non plus, j'imagine.
Non, je connaissais vraiment pas du tout. Et moi, je trouve que c'est une super initiative parce que c'est vrai que maintenant, Noël, c'est un peu un luxe quand on y pense parce que les cadeaux, ça coûte cher, etc. Donc, c'est super qu'il y a des choses comme ça qui sont faites pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, quoi.
Ouais, moi, je me souviens d'une époque où une orange nous suffisait au pied du sapin. Donc, voilà. Bon, en tout cas, la liste du Père Noël, vous pouvez aussi l'envoyer sur l'Insta du TCB. On a bien compris que c'est là-bas que tout se passait. Non, mais plus sérieusement, l'Insta du TCB, c'est quoi précisément, Angèle ?
Tête du champ de bataille.
Voilà, sans S non plus à champ de bataille, toujours pas. Merci beaucoup d'être venu dans Topette ce soir. Bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël aussi, parce qu'on va pas se revoir avant début janvier pour parler juste. Alors je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure de Babil.
Babil.
Ce sera après ou avant qu'on se revoit.
C'est après. Enfin, c'est avant qu'on se revoie, ouais, effectivement. C'est tout début janvier, c'est le 7, 8, 9 vers là.
Je réécouterai le podcast pour savoir comprendre le sens précis de la phrase. Mais on se voit avant Babil.
Ah, ouais, c'est ça.
Voilà, dans ce sens-là.
Non, après. On se voit après Babil.
Je suis définitivement perdu.
Pareil.
Julien,
on se voit pendant Babil.
Oui.
Non, je vais tenter.
Bah, bon. L'émission s'appelle Babil.
C'est vrai. Oui. Bienvenue sur Babil.
Ben, merci. Ben, on va se dire Babil alors.
Bah, et Babil, tout le monde.
Et on se quitte avec la Minute Biodiff. Prenez soin de vous. À demain, 18h10. Et Babil.
Une respiration. Un instant. La Minute Biodiff de Topette.
Sur la Champagne de Méron, au sud de la ville de Saumur, à la limite des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, un oiseau méconnu se balade dans les prairies entre les grandes cultures de céréales. Un oiseau au chant très particulier. Cet oiseau, c'est l'outarde canepetière. Il s'agit d'une espèce que l'on retrouve principalement dans les steppes semi-arides, mais qui trouve refuge dans les parcelles agricoles du fait de la disparition de son habitat naturel. L'outarde est en danger critique d'extinction, avec plus de 90% de la population globale ayant disparu. Maintenant, en France, il existe un grand noyau de population française dans le sud-est de la métropole, en Provence, qui lui est sédentaire. Mais en Maine-et-Loire, un petit groupe d'individus migrateurs se retrouve chaque année sur la Champagne de Méron, un espace de 1700 hectares regroupant une mosaïque d'habitats favorables à de nombreuses espèces. C'est d'ailleurs le dernier site de notre région à accueillir cette espèce d'oiseau. Mais vous ne trouvez pas que c'est un drôle de nom, outarde canepetière? Et vous savez d'où ça vient? Je vous laisse un indice. Est-ce que vous l'avez? Son chant a souvent été comparé à un pet humain, donc littéralement une canne qui pète. Mais apparemment, ça marche mieux chez eux que chez nous, car les femelles raffolent de ce chant. C'est d'ailleurs un critère déterminant pour la saison de reproduction, qui a lieu entre avril et septembre. En mars, les outardes commencent à revenir sur notre territoire, après avoir passé l'hiver dans la péninsule ibérique. Et là, les mâles se lâchent et ne s'arrêtent plus. Jusqu'à juin, ils ne pensent qu'à séduire les femelles. On peut les entendre chanter sans relâche et les observer se poursuivre en vol. Tout pour attirer l'attention de ces dames, qui, elles, se cachent dans les hautes herbes. En cette période, le mâle et la femelle sont facilement distinguables. La femelle porte son plumage habituel, marron sur le dos et blanc sur le ventre. Le mâle, par contre, arbore son plus beau costume. On le reconnaît particulièrement grâce aux motifs sur son cou, des colliers noirs et blancs qui contrastent fortement avec son environnement. De quoi compléter sa parade nuptiale où il chante, trépigne, siffle, saute et bat des ailes pour attirer la femelle et protéger son territoire. Pour nicher, les outardes font dans la simplicité. Elles creusent un petit trou dans la terre, le garnissent d'un peu d'herbe, et voilà, le nid douillet est prêt. C'est la femelle qui assure la couvaison et le nourrissage des poussins, qu'on appelle des outardeaux. Malheureusement, ce nid simple est menacé de façon permanente, et dans notre département, les outardes ont du mal à se reproduire et à survivre. On les trouve sur un seul site dans le Maine-et-Loire, la Champagne de Méron, qui est une zone Natura 2000. Ce qui veut dire qu'elle a un statut de protection à l'échelle européenne. C'est un site qui est façonné par l'agriculture, et peut-être que vous voyez déjà où je vais avec cette information. Comme beaucoup d'espèces partout dans le monde, les outardes sont victimes de l'activité humaine. Les pratiques agricoles, et surtout leur mécanisation et leur intensification, font planer une menace très forte sur tous les oiseaux des champs. On identifie trois grandes causes du déclin des populations. L'utilisation de pesticides, la modification du paysage, et les méthodes de fauche. L'utilisation de pesticides a un fort impact sur la ressource alimentaire des outardes, puisqu'elles se nourrissent à la fois de végétaux et d'insectes, comme des sauterelles, des criquets, des coléoptères ou encore des escargots. Ces insectes sont notamment cruciaux pour le nourrissage des poussins. En plus de ça, la modification du paysage, avec l'agrandissement des parcelles céréalières et la disparition de l'élevage, fait qu'il y a moins de diversité de milieux. Moins de diversité de milieux, c'est l'appauvrissement de l'habitat en général et ça réduit aussi le régime alimentaire des outardes. Et on peut rajouter à tout ça les méthodes de fauche, avec les outils qui vont avec. Je vous disais plutôt que les outardes nichent à même le sol, dans des petits creux au milieu des parcelles. En fauchant comme on le fait aujourd'hui, avec des grosses faucheuses et assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps, le risque de faucher le nid est très élevé. Mais du coup, comment on peut empêcher ça et faciliter la reproduction des outardes en Anjou? Déjà, il faut rappeler que, de par son statut Natura 2000, la Champagne de Méron est protégée à l'échelle européenne. De nombreux acteurs travaillent donc ensemble pour préserver cette zone et la faune et la flore qui vont avec. La LPO Anjou fait partie de ces acteurs. À notre échelle départementale, l'association travaille avec le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine pour assurer la survie des outardes sur le territoire. À l'échelle nationale, un PNA, un plan national d'action, a été établi avec le même objectif, dans le but de mettre en place des actions de connaissance, de communication et de conservation au profit de l'espèce. Du coup, tous les ans, un groupe de bénévoles encadrés par des salariés de la LPO Anjou font un suivi des populations, en repérant les malchanteurs sur le territoire de la Champagne de Méron. Le plus fréquemment, pendant ces suivis, on entend les chants, mais on a parfois droit à un envol ou une petite tête qui dépasse des hautes herbes. Ces suivis permettent d'évaluer l'évolution de l'espèce dans le département à différents moments de l'année, mais aussi d'année en année. Il y a aussi tout un travail de fait avec les agriculteurs eux-mêmes, en les sensibilisant à la présence de l'espèce sur le territoire pour essayer d'adapter les techniques de fauche ou de retarder les dates pour laisser aux outardes le temps d'élever les poussins. La LPO Anjou sensibilise aussi le grand public en animant des sorties nature sur le site pour parler de la richesse qu'on y trouve, mais aussi des menaces auxquelles font face les espèces présentes. Et l'association a même remis en pâturage des parcelles, jusqu'à atteindre 40 hectares, avec des moutons, des vaches, des chevaux et des ânes, en partenariat avec la commune de Montreuil-Bellay et les agriculteurs propriétaires des parcelles. Tout ça dans le but de protéger notre canne qui pète, mais aussi toutes les espèces qui vivent sur ce site.
Tu sais, maman, j'ai préféré partir et m'isoler. Tu sais, maman, comment te dire, je suis juste désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis, c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.